Alors je présente quand même, je te présente Pierre, comme ça, ça on verra ce que ça va donner. Bon d'abord, Pierre est cofondateur de l'agence ABCD, programmiste de formation, de goût, mais c'est Pierre Frankville et l'agence ABCD s'intéressent exclusivement, pour pas dire, enfin essentiellement ou moins exclusivement aux équipements culturels et donc entre autres à la programmation de bibliothèques, mais surtout il nous a aidé, quand je dis nous, ce sont les bibliothécaires, à penser la bibliothèque dans l'implantation urbaine. Et je pense que c'est la demande que nous lui avons faite pour cette journée ici, comme la demande de la contribution de l'ouvrage dont Anne-Marie parlait tout à l'heure, c'est précisément cette question. Nous avons travaillé ensemble dans un passé qui n'est finalement pas si lointain, au moment où Patrick Bouchain était directeur de l'atelier public de l'architecture de la ville de Blois, donc on a quand même eu un certain nombre d'émerveillements, et par ailleurs Pierre a une maison en Bretagne. Voilà. À toi.
Merci Thierry, mais avec ça vous êtes pas fauché.
Tu n'as pas un micro comme ça?
Un micro aussi.
Voilà, merci. Pardon de ce petit retard. Je ne sais pas si Thierry m'a bien présenté, mais peu importe, de toute façon. Merci à lui en tout cas. Je suis très honoré de commencer cette journée de réflexion sur les bibliothèques. Je vais essayer de rassembler mes idées, et pardonnez-moi, pour un lecteur nocturne, se lever à 5h du matin, c'est pas une bonne chose. Donc je vais essayer d'être clair malgré ce peu de sommeil. Alors, en effet, je travaille sur les équipements culturels en général et sur les bibliothèques en particulier. C'est vrai qu'il y a une sorte de toile de fond comme ça de notre réflexion, je dis notre à l'agence, hein, on va dire, qui est l'urbanité, qui est la ville, qui est la cité. Et notre problématique, vous allez le voir tout au long de cette réflexion, quand Christelle m'a demandé comment je souhaitais définir cette séance de présentation, l'association de l'urbanité et de la bibliothèque m'est tout de suite venue. La notion de désir d'urbanité m'est également venue assez vite. Je pense que nos équipements, même les équipements les plus ruraux, créent de l'urbanité là où ils sont, même si c'est en rase campagne. Donc mon discours s'adresse aussi au BDP, bibliothèque départementale, et bien entendu aux bibliothèques urbaines. Nous ne faisons pas trop de différence entre les deux. La création d'urbanité peut se faire là où il n'y a pas de ville, bien entendu. Alors, j'ai essayé de plutôt que de faire une sorte de cours un peu magistral comme cela, ce n'est pas mon souhait, ni de faire un historique de notre démarche, hein, c'est plutôt de faire un temps d'arrêt sur la réflexion qui est la nôtre aujourd'hui en 8 points. J'aurais pu en mettre 9 ou 10, peu importe, j'en ai mis. Il y en a 8 qui sont tombés en tout cas ce matin, qui tournent tout autour de ce sujet-là et qui tournent tout un peu autour de cette interview que nous avions fait avec Christelle et Thierry il y a quelques mois maintenant. Alors, le premier sujet, c'est bien entendu la relation de l'institution bibliothèque à l'architecture. C'est une relation très étroite. Il n'y a pas de bibliothèque sans architecture, sans désir d'architecture. Alors, comment engager cela ? Il y a un auteur, il y a un architecte qui m'a toujours séduit par ses réalisations, qui est un architecte américain qui s'appelle Louis Kahn, qui a commis plusieurs bibliothèques, mais pas que des bibliothèques. Il a fait beaucoup d'églises, beaucoup de Il a fait des maisons particulières, il a fait beaucoup, en tout cas beaucoup d'institutions publiques, beaucoup d'institutions de recherche également, beaucoup de campus. Il s'est beaucoup intéressé au campus, au lieu de recherche, au lieu de réflexion. Et il y a une réflexion chez lui qui m'a toujours troublé. Je retrouve mon sac. Et c'est un architecte qui a peu écrit, mais qui a enseigné toute sa vie. Donc, qui a toujours eu une posture réflexive sur ses réalisations. Il y a une chose qui m'a marqué et que j'aimerais rappeler, un petit texte de lui, et notamment un petit texte qui s'adresse aux bibliothèques. Il dit « Le commencement de la bibliothèque, c'est de prendre un livre dans les rayons et de s'approcher de la fenêtre pour le lire. Les objets sont des êtres, la brique à qui l'on demande ce qu'elle veut. Être répond, je veux être un arc et la structure est un donneur de lumière. Le commencement de la bibliothèque, c'est de prendre un livre dans les rayons et de s'approcher de la fenêtre. C'est la première chose que nous dit Kahn. C'est-à-dire qu'il nous dit, en quelque sorte, déshabillons de tout l'artifice, déshabillons de tout le caractère superficiel, le projet, le programme des bibliothèques, pour revenir essentiellement à l'essentiel. Il nous dit « revenons à ce qui constitue la bibliothèque ». Et il dit « c'est un être humain qui prend un livre et qui s'approche d'une fenêtre pour avoir de la lumière enfin. ». Il nous dit une seconde chose aussi, et il nous le dit dans d'autres récits, et c'est ces deux paroles de Kahn que j'aimerais associer ensemble, et sur lesquels j'aimerais m'interroger. La seconde chose qu'il nous dit, et qu'il, comment dire, qui désigne un peu son travail à Louis Kahn, c'est qu'il dit ceci toujours, il prend l'exemple d'une cuillère. L'idée d'une cuillère, c'est simple, c'est un manche avec un récipient qui est au bout de ce manche, qui permet de porter quelque chose à la bouche. Et il dit, certes, il y a cette idée de cuillère, cette espèce de programme, en quelque sorte, si je traduis ça en termes programmatiques, et je prends un objet simple, très très volontairement, comme j'ai pris l'objet bibliothèque, et pour Kahn, l'objet bibliothèque, vous l'avez bien compris, c'est un être humain qui prend un livre, qui l'ouvre et qui se dirige vers une fenêtre pour le lire, et il dit, l'objet de la cuillère, c'est pareil, il y a l'objet un peu idéal de la cuillère, c'est cet objet, cette manche avec cette petite coupelle qu'on porte à sa bouche, et puis il y a les réalisations, les projets en quelque sorte réalisés par des designers de cuillères particulières avec des manches plus ou moins élancées, plus ou moins gros, des bols plus ou moins profonds, bon, etc., etc. Bref. Et l'association de ces deux choses fait que Kahn, dans son travail, et ce qui a été la très grande singularité de cet architecte, avant de se soucier du projet proprement dit, s'est toujours soucié de ce qui sous-tendait le projet, à savoir du programme. Et c'est ce qu'il a un peu distingué de tous les architectes de sa génération, c'est-à-dire que l'usage, en quelque sorte, a toujours été prégnant dans sa pensée. Il s'est toujours interrogé sur à quoi servaient les choses. Ce que je veux dire par là, et son attitude à lui d'ailleurs, a toujours été un peu de distinguer une sorte d'idée platonicienne de son projet, de l'objet proprement dit, réalisé concrètement avec des briques, du ciment, du bois, de la pierre. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce rapport à l'objet idéal et à l'objet réalisé, avec tous les malentendus, bien entendu, qui peuvent se glisser entre ces deux éléments-là. Et donc, si je regarde bien, si j'assemble ces deux citations de Kahn, finalement, l'idée de bibliothèque, l'idée platonicienne, en quelque sorte, de bibliothèque, serait cet être humain qui prendrait son livre, qui l'ouvrirait, qui se dirigerait vers une fenêtre, qui l'ouvrirait. Et puis, de l'autre côté, il y a les réalisations proprement dites d'architectes, lui-même d'ailleurs, et tous les autres architectes qui font des bibliothèques, et qui réalisent peu ou prou cet objet idéal. Ça m'embête beaucoup, bien entendu. Ça m'embête beaucoup parce que si je traduis cette pensée de Louis Kahn à l'heure actuelle, je m'aperçois qu'il n'y a pas de bibliothèque idéale, en quelque sorte comme une sorte d'idée platonicienne qui trônerait autour, au-dessus de nous, et dont nous ne serions pas maîtres, en quelque sorte, qui aurait son destin propre, et la réalisation proprement dit architecturale, matérielle, que nous en donnerions. Pourquoi ? Parce que le livre n'est plus cet objet central. L'imprimé n'est plus cet objet central. Et nos bibliothèques, et sans doute peut-être abusivement appelons-nous encore cela des bibliothèques, ne répondent plus à cet objet. C'est un peu tout le fil de mon entretien aujourd'hui avec vous. Il n'y a pas d'idéalité bibliothèque. Et j'avais écrit un article il y a longtemps contre la bibliothèque idéale. Et il me semblait en effet qu'il n'y avait pas d'objet idéal qui s'appelait bibliothèque. Et donc il n'y a pas de programme idéal de bibliothèque. Et donc il n'y a pas de projet architectural qui doit courir après cet objet idéal bibliothèque. C'est la première remarque que j'ai. La seconde remarque que j'ai, c'est que Louis Kahn ne défait jamais sa pratique d'architecte de sa réflexion programmatique. Et ça, quand même, c'est intéressant. Donc je retiendrai ces deux choses. D'abord que le fait de rechercher une bibliothèque idéale dont on ferait descendre en quelque sorte la matérialité dans nos villes n'existe pas, et qu'à tout le moins, il faut toujours remettre en cause cet objet idéal que nous pourrions croire idéal mais qui ne l'est pas, qui est ce programme auquel on court et ce projet auquel on court également, architectural, qui serait la traduction de cette idée. Voilà. C'est le premier élément que je voudrais lancer ici, qui me semble être un peu la matrice de notre histoire à ABCD, qui est de ne pas se fier à ce qu'on pourrait appeler une sorte d'objet idéal programmatique. Pourquoi ? Parce que les choses évolue et que la bibliothèque, et c'est sans doute les secondes parties, les autres parties de mon entretien aujourd'hui vont non pas le montrer ni le démontrer, j'ai pas cette prétention-là, mais au moins en donner témoignage. Il n'y a de bibliothèque que de bibliothèque sous influence. Alors, il me semble en effet qu'après ces temps certains, où chacun d'entre nous, si nous avons connu les années 80, 70, 80, 50, 60, si nous avons connu ces grandes bibliothèques avant la Révolution, avant les Révolutions, avant ces aires d'influence, eh bien, nous avons tous connu une sorte de, oui, c'est vrai, d'idéalité du modèle bibliothèque, qui oscillait entre la bibliothèque publique et la bibliothèque d'études, qui oscillait deux polarités, une polarité de la conservation et une polarité de la communication des documents. Et nous avons tous en tête ces grandes bibliothèques à frontons, qui ressemblaient d'ailleurs un peu souvent des cathédrales, à des temples, à des tribunaux, bref, qui avaient toute la monumentalité que l'on attendait d'un édifice censé recevoir le savoir. Et puis nous avons tous vu ces modèles-là s'effriter, ces modèles-là se décomposer, ces modèles-là s'enrichir. Pourquoi ? Il nous semble qu'il y a, bien entendu, de multiples raisons. Je ne vais pas faire ici un cours d'histoire sur la façon dont ce modèle classique s'est désagrégé. On pourrait dire d'ailleurs s'est enrichi aussi. Pourquoi dire s'est désagrégé ? Pourquoi prendre le parti d'une perte plutôt que d'un gain. Mais il me semble qu'il y a trois raisons majeures. Il me semble qu'il y a, bien entendu, l'avancée des technologies immenses, qui ont bouleversé nos comportements vis-à-vis du savoir, vis-à-vis des processus cognitifs qui sont les nôtres au quotidien, et que nous n'utilisons plus, en effet, seulement le livre comme source d'information, de documentation, d'enregistrement du savoir, de collecte d'informations, mais que nous avons d'autres, de multiples façons de le faire. Nos comportements, bien entendu, ont évolué aussi. Christelle m'a appelé 5 minutes avant que je ne sois là pour s'enquérir de mon parcours. J'aurais pu ne pas répondre il y a 10 ans, et elle aurait pu prendre des mesures pour me remplacer au pied levé, parce que, etc. Bon, bref. Donc en effet, nos comportements également changent, et on voit bien nos lecteurs dans nos bibliothèques qui ont tous différents outils devant les yeux, et moi-même, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone portable dans ma poche, j'ai peut-être même d'autres outils perfectionnés qui signalent ma présence et qui me permettent de communiquer et d'être démultiplié, en quelque sorte. Donc, nos comportements, notre sociologie, ont beaucoup évolué également. Et puis, il y a un autre facteur, et c'est ce facteur-là qui, pour moi, reste un fil conducteur, c'est l'évolution des villes. Nos villes ont changé, bien entendu. Je ne sais pas s'il y a des architectes dans la salle, des urbanistes dans la salle, mais en effet, les villes ont d'ailleurs changé avec l'évolution aussi et de nos comportements et de nos moyens de locomotion et de nos outils de dialogue entre nous. Les villes également sont devenues des espaces de flux, qui gèrent des trains, des trams, des tramways, des voitures, des trains, donc des gares, donc des lieux, des hubs, des aéroports, des équipements de transfert, de rupture de charge, comme disent les logisticiens du transport. Et nos villes, en effet, sont devenues des sortes de lieux à flux tendus en permanence, qui ont tendance à gérer nos corps physiques, mais aussi nos corps dématérialisés qui doivent communiquer avec leurs semblables. Bref, les villes changent aussi. Alors, quelle implication sur nos bibliothèques ? Il nous semble en effet à tous que nous vivons des temps incertains. Ce n'est pas forcément désagréable de vivre des temps incertains. Ce n'est pas forcément non plus tragique de vivre des temps incertains. Il y a dans cette incertitude des promesses d'avenir. Et c'est ces promesses d'avenir que je me propose ici de dénoncer très modestement. Alors, comment nous en rendons-nous compte dans nos bibliothèques ? Et ma foi, les symptômes du détournement par nos usagers, je ne dis même plus lecteurs, par nos usagers de nos équipements sont la preuve même que nos équipements sont des équipements désormais sous influence, dont la coque craque, dont la définition parfaite que nous en donnions il y a encore quelques décennies craque, se disloque. Donc il y a là, en effet, une sorte de transformation lente par l'intérieur de nos bibliothèques. Et d'ailleurs, je vous montrerai un article que j'ai d'ailleurs montré dans une autre intervention cette semaine ici. Une journaliste anglo-saxonne, américaine, énonce très clairement le fait que nous bâtissons des bibliothèques, mais nous bâtissons des bibliothèques qui ne sont plus des bibliothèques. Nous leur attribuons ce nom, non pas par erreur, mais par peut-être abus de langage, par histoire, en quelque sorte. Il y a, je cite toujours cet exemple-là, alors pardon pour ceux qui m'ont subi dans plusieurs séances, mais je peux peut-être répéter des choses. On a travaillé sur la BPI il y a 2 ans, on travaille toujours sur la BPI d'ailleurs, et je vous dirai tout à l'heure ce qu'on y fait. Thierry Grenier était le directeur dans le Ravant Patrick Bazin, juste, et il nous avait demandé de mener une sorte de diagnostic un peu de cet équipement, là, avant de même de réfléchir à la façon dont on pouvait le repenser. Pourquoi on pouvait le repenser. Nous nous promenions tout simplement avec mon équipe dans les espaces de la BPI. Et nous nous postions à l'entrée exacte, je ne sais pas si tout le monde voit comment est fichue la BPI, mais sur la mezzanine du bas, là où le public entre depuis l'espace urbain, il y a un accès, les gens font la queue dehors, les étudiants font la queue dehors, et puis au moment où on ouvre les portes, ils entrent tous comme une bombe, et ils entrent tous en vrac, en quelque sorte, pour grimper sur les escalators et atteindre les premiers et troisièmes niveaux. Bon. Et puis, il y a bien entendu du personnel de sécurité qui est là à l'accueil, qui contrôle les sacs, etc., comme Beaubourg est une sorte d'horloge sécuritaire, on va dire, hein. Et donc la BPI aussi. Il y avait, en plus du service de sécurité, un bibliothécaire qui était là. Et je dis ça à titre de symptôme, hein, c'est une métaphore que je fais, c'est pas plus de conclusion que cela. Et quand tous les étudiants, enfin quand tous les visiteurs, essentiellement des étudiants, sont rentrés dans cet établissement, ils sont rentrés avec une posture d'être urbain. C'est-à-dire qu'ils étaient piétons, piétinants d'ailleurs, dans la queue, et ils sont rentrés dans cet équipement-là, mais avec des habitus qui étaient ceux du de l'urbain. Donc ils sont rentrés avec des téléphones, ils sont rentrés bras dessus, ils sont rentrés en courant, ils sont rentrés en chantant, ils sont rentrés en sifflant, ils sont rentrés en s'embrassant, ils sont rentrés en se donnant rendez-vous, ils sont rentrés dans toutes les postures possibles. Et d'un seul coup, on a vu le bibliothécaire, bien entendu, sortir de son état de bibliothécaire pour devenir, pour redonner maîtrise du lieu et pour faire en sorte que le règlement soit appliqué. Et ce règlement-là interdisait de courir, de téléphoner, de s'embrasser, de se bécoter, de, etc., etc. Bref. Et son rôle, qui tenait d'ailleurs très très au sérieux, a été systématiquement, pour les 2000 personnes qui sont rentrées, de les mettre en état d'être lecteurs, tel que l'institution attendait qu'ils soient lecteurs. Il avait beaucoup de mal, quand même, parce qu'au bout du... D'abord, il était un peu débordé. Il n'y arrivait pas trop, pour tout dire. On le sentait en difficulté. Et je pense que cette image-là donne bien l'image de ce que peut être aujourd'hui une bibliothèque. Et je vous passe de ceux qui dorment, de ceux qui prient, de ceux qui mangent, de ceux qui boivent, de ceux qui, etc., etc., etc. Vous connaissez tous le chapelet des mille et un comportements que l'on trouve dans nos bibliothèques. Mais ce comportement du bibliothécaire face à ses lecteurs qui rentrait avec autant de liberté de l'espace urbain disait à la fois la confrontation un peu rude de l'espace domestique, de l'espace urbain avec la bibliothèque. Parce qu'en effet, dans l'espace urbain, maintenant qu'on a nos téléphones, on est comme chez nous. Et comme chez nous, c'est partout. On est partout chez nous. Et donc la domesticité s'installe partout, y compris là où elle devrait être institutionnelle et normée. Bref, on trouvait là, en quelque sorte, une sorte de paradigme de l'opposition entre la domesticité et l'urbain et la bibliothèque, où les choses sont rangées et obéissent à un règlement. Alors, il y a plusieurs façons, bien entendu, de prendre ces détournements de la bibliothèque. Mais je pourrais en parler des plus fondamentales, et l'une des plus fondamentales auquel on soit confronté aujourd'hui dans cette BPI, notamment, mais chez vous, dans toutes les bibliothèques de France et de Navarre et du monde, d'ailleurs, c'est le fait que les lecteurs, souvent, n'utilisent plus les documents qui sont dedans. Les usagers n'utilisent plus les documents, ou très peu, ou plus en tout cas, en nombre aussi important. Bref, ils délaissent la documentation qui se trouve dans ces équipements, c'était pourtant le rôle essentiel de ces lieux que rappelait Kahn tout à l'heure. Une bibliothèque, c'est un lieu où je prends un livre et je me dirige vers une fenêtre pour le lire. Bon, et si possible, ce livre vient de la bibliothèque. Et on se rend compte, en effet, qu'ils n'utilisent plus cette documentation. Et donc, en effet, ils viennent y chercher quoi ? Autre chose, plein d'autres choses, sans doute. Alors, pardon si je répète des choses mille fois entendues hein, dans les lignes du BBF, de l'ABF, des congrès, des ceci et des cela, ou de vos conversations avec vos collègues quotidiennes. Comment doit-on réagir ? Est-ce qu'on doit réagir en poursuivant ce travail du bibliothécaire qui souhaite faire régner l'ordre ou au contraire, est-ce qu'on se doit de réfléchir sur cet écart entre nos comportements, et je dis non, je m'associe à ça, et ce qu'attendent de nous l'institution, les institutions. Ma réponse importe peu. C'est la réponse que globalement l'institution donnera, bien entendu, qui compte. Et je pense que l'institution n'est pas uniforme. Donc l'institution, par la voix de certains d'entre vous, de petites, de moyennes, de grandes bibliothèques, c'est la voix des collègues, des bibliothécaires, des responsables d'équipement qui, en effet, donnera le ton. Bon. Toujours est-il que crise du modèle, oui, modèle en déséquilibre, et donc recherche soit de faire entrer le modèle, les comportements dans le modèle et de poursuivre, de continuer dans le modèle préexistant, ou au contraire de s'interroger sur ce modèle-là et de voir si finalement nos lecteurs ne demandent pas quelque chose de, ou plutôt nos visiteurs ne demandent pas quelque chose de de sensé comme une sorte de vague, de toute façon, à laquelle on ne pourra pas refluer. Ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, c'est... oui, bon, d'accord, on fait ce constat. Oui, on fait ce constat. Mais enfin, alors à ce moment-là, que doit-on faire ? Où doit-on aller ? Est-ce que l'on doit... Et il y a plusieurs pistes à ça. Il y a la piste que nous donnent nos amis sociologues, hein, qu'ils soient urbanistes, sociologues urbanistes ou sociologues bibliothécaires. Je pense à Sandrault, à Poisseneau, à tous ces gens-là, qui s'interrogent sur ce que demande le lecteur. La première piste, c'est bien entendu, puisque les lecteurs détournent, les visiteurs détournent, demandons aux visiteurs ce qu'ils veulent. Quitte, même s'ils ne nous le disent pas franchement, à nous interroger sur les raisons de cet écart et essayons d'y répondre. C'est-à-dire, prenons comme outil la sociologie du comportement de nos visiteurs. Ça, c'est la première réponse. Les réponses qui sont données me semblent toujours insatisfaisantes. Elles me laissent toujours une sorte de goût d'insatisfaction, parce qu'elle ne me semble pas aller au bout des choses, parce qu'elle ne me semble pas tirer le fil suffisamment loin. L'observation de ce que nos usagers veulent me laisse comme une sorte de, oui, d'insatisfaction intellectuelle. Je pense que c'est la matière même sociologique qui me laisse comme cela. L'observation et l'interprétation de ce que veulent nos lecteurs m'informent, me donne une intelligence du comportement, mais ne me disent pas où aller, ne me donnent pas de direction. Alors peut-être suis-je un peu platonicien, justement, peut-être suis-je à la recherche d'une idée qui me donnera une sorte de guide comme cela, hein, qui me permettra de cheminer. La seconde voie, c'est le benchmark. Alors là, on y va, tout joyeusement. Et comme les bibliothécaires sont branchés entre eux, qu'ils communiquent énormément entre eux, qu'ils s'informent énormément, qu'ils sont sur les réseaux, sur la toile, il y a une sorte de benchmark naturel qui se fait. Et on est tous en effet à aller observer les bibliothèques du monde entier qui se réalisent, qui fonctionnent avec des bonheurs et des malheurs, des réussites et des échecs. Et on observe en effet avec... avidité les bibliothèques du nord de l'Europe en se disant, mais comment font-ils pour faire des lieux comme cela, comment font-ils pour avoir ces statistiques d'entrée merveilleuses, comment font-ils? Enfin, pareil, le benchmark me laisse insatisfait aussi, c'est-à-dire que le benchmark ne me donne pas, pareil, la direction. Ça me donne des exemples, ça me donne un regard sûr, mais ça ne me dit pas où aller ici. Parce que le benchmark ne me donne pas de contextualisation de là où je suis. Et ça m'embête beaucoup. Alors, il me semble qu'il y a une sorte de troisième voie. Et cette troisième voie, qui est une voie longue, qui est une voie un peu compliquée, est la voie que je nommerais, en effet, le désir d'urbanité. Voilà, Christelle m'a interrogé, je lui dis... Désir d'urbanité. C'est quoi le désir d'urbanité ? D'abord, c'est pas l'urbanisme. L'urbanisme, c'est cette, pardon, de faire un peu de vocabulaire. L'urbanisme, c'est la fabrication de la ville, c'est la gestion de la ville, et l'urbanité, c'est cette espèce de mot un peu indéterminé, mais c'est pour ça qu'il m'intéresse, parce qu'il donne un champ ouvert à la réflexion. Il ne ferme pas tout de suite les choses. L'urbanité, c'est cette façon d'être ensemble. Dans un lieu, c'est cette urbanité, cette politesse, mais plus que cela, cette espèce de civilité, de déploiement, de contact que nous avons tous les jours ensemble et qui nous permet en effet de faire société. Et cette espèce de indétermination sémantique me séduit parce que je pense qu'elle dit le fond de nos villes et peut-être aussi le fond de l'absence de nos villes. À savoir le fait d'être ensemble en un lieu. Et parfois, on reproche aux villes de fabriquer beaucoup de solitude, et en effet, beaucoup de rapidité, beaucoup de flux ne fabriquent pas forcément de la proximité, de l'intelligence partagée. Néanmoins, urbanité me dit que s'il y a partage, s'il y a frottement entre les individus, s'il y a contact, s'il y a intelligence partagée, c'est peut-être là qu'elle risque de naître le mieux. Et en effet, cette urbanité-là, je peux très bien la retrouver à la campagne d'ailleurs, hein, je la rechercherai particulièrement en ville. Et à ce moment-là, je me dis, est-ce que, et vous voyez, j'inverse la question, c'est-à-dire je ne me dis pas que veut la bibliothèque, je me dis l'inverse, je me pose la question de savoir quelle bibliothèque veut la ville pour résoudre cette équation compliquée de l'urbanité. Et d'un seul coup, je me trouve happé, en effet, dans une série d'interrogations qui sont extrêmement intéressantes, positives, productives d'idées. Et je me remets, à ce moment-là, à relire une série de prospectivistes de la ville, qui sont pas forcément prospectivistes uniquement, c'est peut-être aussi des fabricants de la ville, mais j'en citerai deux uniquement, que j'affectionne particulièrement, François Hacher et Marcel Roncaiolo, bon, qui sont en effet de bons observateurs de la ville. Et je les aime bien, d'une part Hacher parce qu'il a bien pensé la ville moderne et hyper moderne, qui est aussi la vôtre, bibliothécaire, et Marcel Roncaiolo parce qu'il a toujours cherché à fonder, dans une sorte de réflexion un peu philosophique, sa pensée de bon observateur de la ville et qu'il ne s'en est jamais dégagé. Parfois s'est-il un peu embourbé, un peu pris les pieds dans le tapis. Néanmoins, je pense que ces deux-là donnent une bonne image des réflexions que mènent les urbanistes contemporains sur la ville de demain. Et en cela, ça m'intéresse, parce que en cela, ils nous donnent des pistes pour penser la bibliothèque de demain. Pourquoi dis-je cela ? Parce que finalement, et je reviendrai sur cela tout à l'heure, il me semble qu'il faut déverrouiller la pensée programmatique. Les bibliothèques ont été trop pensées sous le registre du modèle. À un moment donné, il nous suffisait d'ouvrir un livre, d'ouvrir le moniteur des travaux publics, pour lire dans Bibliothèque dans la cité ce que voulait une ville de 25 000, de 20 000, de 15 000, de 10 000, de 5 000, de, etc. Et il suffisait que je trouve le bon index à la bonne page pour, en effet, couler, toucher, appliquer un programme et le confier à de joyeux drilles architectes pour que, en effet, ils dressent immédiatement les plans de ce projet. Il me semble que ça ne fonctionne plus comme ça. Il me semble, en effet, que la pensée programmatique actuelle tend à s'ouvrir, mais reste néanmoins un peu bloqué. Il me semble qu'on répète trop, à l'envi, des modèles préexistants. Alors, reprenons nos deux urbanistes. Pourquoi aller vers eux ? Pourquoi aller vers eux ? Parce qu'il me semble en effet qu'ils nous aident à déverrouiller cette pensée programmatique, à nous échapper du cadre strict, normatif, des programmes de bibliothèque que l'on trouve habituellement dans les concours. Alors, que nous disent-ils ? Un peu en vrac, et pardonnez-moi, on pourrait en parler plus longuement, mais je pense qu'il faut que je fonce un peu. Ils demandent des lieux de frottement, à savoir, ils demandent des lieux qui favorisent les échanges, la rencontre, l'échange physique, mais aussi la proximité physique des êtres, qui fait jaillir en effet le dialogue, l'intelligence, la parole, mais aussi donc des lieux qui nous ralentissent dans nos flux permanents, qui peuvent être nos flux de la maison, vers l'école de nos enfants, vers l'entreprise, vers la cantine, vers les courses, vers chez nous, et rebelote. Et il nous semble en effet que dans cette espèce de flux permanent que la ville tend à, faire de mieux en mieux fonctionner, les urbanistes à un moment nous disent « stop ». À un moment donné, il faut mettre des grains de sable dans cette machine. Il faut mettre en effet des grains de sable qui nous permettent de nous ralentir dans nos circuits, de nous arrêter un instant. Pourquoi ? Parce que la pensée productive ne fonctionne que si à un moment donné nous nous arrêtons. C'est-à-dire que l'ouverture au monde ne fonctionne qu'à un moment donné si on s'apaise de nos flux permanents et que si on s'arrête de courir en tous sens. Ils nous disent également qu'il faut des lieux multitemporels, à savoir des lieux, en effet, où la vacance et le travail sont possibles. C'est-à-dire des lieux où, en même temps ou d'un instant à l'autre, je peux être, en effet, en repos, en vacances, et à un autre moment, 5 minutes après, au travail avec une grande efficacité. C'est-à-dire des lieux qui, dans le même espace, me permettent d'avoir des temporalités différentes. C'est Roncaiolo qui nous dit ça, notamment. Ils me disent également qu'à un moment donné, il faut casser le registre du professionnel et de l'amateur, que ces deux registres-là tendent à s'emboîter de plus en plus, et que la frontière entre les deux tend à s'atténuer. C'est-à-dire que l'amateur produit de plus en plus, et d'ailleurs produit souvent avec des professionnels, et que les professionnels tendent à se tourner vers les amateurs pour chercher inspiration. Et que les amateurs, eux, se tournent du côté des outils des professionnels, dans le domaine de la musique, mais on pourrait dire dans le domaine de la danse, dans tous les domaines de l'écriture, etc., de la recherche, pour en effet alimenter ou diffuser leur production. Ils nous demandent des lieux de décloisonnement, à savoir des lieux où la culture, à un moment donné, rencontre l'économie, la valorisation du territoire, le social, la pédagogie, le loisir, le tourisme, où la culture est décloisonnée avec les autres domaines qui l'enferment habituellement. Et en effet, on peut se dire que durant 30 ans après-guerre, les professionnels ont confirmé leur métier. C'est-à-dire se sont dotés d'outils de gestion, des moyens de méthode, etc. Tous ces outils les ont rendus en effet beaucoup plus performants, que ce soit les professionnels du livre et de la lecture, du spectacle, des musées, du patrimoine, de l'art contemporain. Tous ces gens-là, chacun dans leur domaine, se sont dotés d'outils formidables et ils se sont cloisonnés aussi les uns par rapport aux autres. Les uns par rapport aux autres et les uns par rapport aux autres par rapport aux autres métiers de la ville et par rapport aux autres métiers globalement de l'économie sociétale. Et il y a là comme une forme de cassure à mettre en place et d'ouverture sur laquelle prospecter. Et ils nous disent aussi, paradoxalement, il faut des lieux physiques. Il faut des lieux physiques quand notre pensée tend de plus en plus à se dématérialiser, à s'évaporer dans des connexions incertaines. À un moment donné, Roncaiolo dit même, quand la pensée bruisse à travers le virtuel financier, il faut à un moment donné retrouver la matérialité du lieu. C'est-à-dire, il faut arriver à retrouver des lieux où, physiquement, on se voit, on se touche, on échange des émotions, des impressions et de l'intelligence. Que l'intelligence n'est pas que du flux dématérialisé, c'est aussi de l'émotion, de la sensation et toute cette matérialité, en effet, qui fait la singularité de nos vies. Donc, en effet, j'arrêterai la liste, qui est un peu une liste à l'après-vert, là. Ce que je voulais dire par là, c'est poser la question suivante. Dans tous ces souhaits que résument nos urbanistes, lieu de frottement, lieu d'échange, lieu de rencontre, lieu de ralentissement, lieu multitemporel, lieu de rencontre amateur-professionnel, lieu du décloisonnement, lieu physique, on peut s'interroger dans la panoplie des équipements culturels qui sont les nôtres, aujourd'hui dans la cité, si la bibliothèque ne remplit pas plus qu'un autre ses différents rôles. Je dis si, je dis oui. C'est-à-dire, je pense que plus qu'une salle de spectacle, plus qu'un musée, plus qu'un centre d'art, la bibliothèque a des moyens. Et les professionnels ont développé des ingénieries qui permettent en effet de répondre à ces enjeux-là. Il ne s'agit pas que de parler d'architecture et de lieu, il faut aussi parler des compétences des professionnels, et c'est, je pense, de ces deux atouts-là, et l'architecture des bibliothèques et les compétences des professionnels, dans lesquelles en effet on a une sorte de boîte à outils qui nous permet de répondre à tous, sinon une bonne partie, des exigences que nous posent aujourd'hui ces professionnels de la ville. Ça, c'était le troisième point. Le quatrième point, c'était ne pas se réfugier dans un modèle. Il me semble qu'il y a aujourd'hui une sorte de... On sent bien qu'il y a une malaise. Bon, on sent bien, oui, on sent bien. Mais est-ce qu'il faut à tout prix, et immédiatement, parce qu'on sent ce malaise, se réfugier dans un modèle? Est-ce que le troisième lieu, pour ne parler que lui, parce que c'est de lui dont je veux parler, est une sorte de modèle magique, une sorte de truc qu'on claque du doigt et on a la réponse? Non. Alors, Je téléphonais l'autre jour, je m'occupais d'une petite ville dans une région en France, et j'appelais le conseiller livre et lecture pour dialoguer avec lui et lui demander ce qu'il pensait du projet. Et il m'a dit, il faut faire un troisième lieu. Tout de suite. Alors, j'étais un peu soufflé d'ailleurs, parce que il est allé très vite dans notre conversation pour me soumettre ça. Un peu trop vite quand même. C'est-à-dire qu'il n'a pas laissé le temps à justement le doute, la réflexion, la contextualisation pour dire si c'était ça qu'il fallait ou autre chose. Bon. Et il a sorti ça comme une recette magique, quoi. C'est le petit marmiton de la bibliothèque future, on fait un troisième lieu. Bon. Alors certes, le troisième lieu, et j'aurais pu citer, mais je ne l'ai pas fait tout à l'heure très intentionnellement, Ray Oldenburg, qui est le maître à penser d'un certain nombre d'amis bibliothécaires, d'ailleurs, que j'ai. Il dit des choses intéressantes. C'est vrai que sa réflexion sur les villes américaines, sur l'absence de lieux, de centralité, de rencontres, appelle en effet nos réflexions sur la création de lieux qui ne seraient ni le bureau, ni la maison, mais qui seraient des lieux indéterminés, qu'étaient les bistrots, les places de marché, les églises, les machins, etc. Vous connaissez parfaitement le topo. Mais est-ce que pour autant, on doit d'un seul coup se réfugier sur ce modèle-là et dire c'est ça qu'il nous faut ? Non, 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 non. Moi, je pense qu'il faut cultiver le doute, justement. Il faut, nous sommes dans une période de grande instabilité, mais tâchons justement de maintenir ce doute. N'essayons pas de prendre d'un seul coup de l'aspirine ou des antibiotiques pour réparer la maladie qui nous prend. Gardons lentement cette maladie pour faire prospecter en nous des idées nouvelles. Il n'y a pas d'idées nouvelles sans doute. Donc restons là encore avec nos incertitudes qui sont peut-être plus productives que les recettes à deux balles que certains voudraient nous faire avaler. Et je dis ça en plus, l'agence a été la première à réaliser le programme d'un troisième lieu qui naîtra à Thionville. J'avais donné ce nom de code au départ, troisième lieu, parce qu'on y avait travaillé avec Mathilde Servet, et puis d'un seul coup, les élus se sont emparés du truc et ont appelé ça troisième lieu. Pour moi, c'était un nom de code, de machine, vous voyez, il fallait l'appeler autrement, je sais pas moi, la bibliothèque Réverdi ou n'importe quoi.
5 minutes.
Alors, comment faire ? Comment faire également pour avancer ? Comment faire pour avancer ? Il me semble que il y a une notre ingénierie des projets en architecture n'est absolument pas satisfaisante. Il y a une sorte de chaînage des compétences qui me semble très dommageable à l'intelligence. L'élu décide, le bibliothécaire rédige son projet, le programmiste programme, l'architecte conçoit, et le lecteur détourne. Et il y a là une sorte de chaîne, vous voyez, qui se fait où chacun dans son segment temporel fait son taf, fait son job, et puis tous ces gens-là ne se rencontrent pas, ou très peu. Alors bien sûr, de temps en temps, le programmiste, quel vilain mot d'ailleurs, reste présent et collabore à l'APS, à l'APD, mais il est là comme pur contrôleur, comme pur flic de la bonne adéquation du programme par les plans de l'architecte. C'est dommageable. Cette espèce de c'est comme des cassures d'intelligence, vous voyez, c'est comme des cassures de rythme. Si on enfermait en effet chacun dans un segment temporel, comme on l'enferme dans une boîte, en disant le message que vous avez à communiquer à l'autre, c'est un petit document très formaté de 30 pages qui s'appelle programme, que le concepteur va lire et qui va lui permettre de faire son projet, et puis après poubelle. Voilà. Non, faire un programme, c'est pas ça. Faire un programme, c'est pas ça. Et, pardonnez-moi, j'en appelle à la technique d'un architecte avec lequel j'ai beaucoup travaillé et qui m'a formé dans les premières années de mon parcours, qui s'appelle Patrick Bouchain. Je venais directement de son atelier. On travaillait ensemble sur des projets à Blois, d'ailleurs où on a rencontré Thierry, où on s'est rencontré. Et Patrick Bouchain, son truc, c'était d'avoir un interlocuteur permanent qui allait du début à la fin. Et en effet, le programmiste qui arrivait avec son segment qui délivrait son document, c'était de la foutaise. Il lui fallait au contraire quelqu'un avec qui il discutait, il doutait, il échafaudait, il inventait, il imaginait, il cassait les projets, il rompait la structure, il recommençait. Bref, il avait besoin d'un interlocuteur. Il avait à ce point besoin d'un interlocuteur qu'il ne prenait de projet à certains moments que si le maître d'ouvrage, à savoir celui qui commande l'ouvrage, ne déterminait le véritable usager de la fin, le directeur de la scène nationale, etc., comme le seul pouvant s'adresser à lui, contractuellement. Et c'est comme ça que Francis Peduzzi, au Chanel, à Calais, a été, avant le directeur des services techniques, le seul interlocuteur de Bouchain, durant toute la séance de conception du programme, de conception architecturale, de chantier et d'ouverture de l'équipement. Il faut rompre cette espèce de chaînage idiot que nous a imposé la loi de 1970 sur l'ingénierie. Nous ne ferons rien avec cette loi. Sixième point, sur lequel je peux aller peut-être plus vite. Il me semble que l'invention ne viendra pas des grands équipements. Pourquoi ? Parce que les grands équipements sont d'un seul coup alourdis de lourdeur. Elles ont mal à l'estomac tout de suite. Elles ont mal au syndicat tout de suite. Elles sont arthrosées. La véritable invention viendra des petits équipements entre 500 et 2000, 2500, 3000 mètres carrés. C'est là qu'on fera la véritable invention des projets de demain. Nous travaillons, nous, sur suffisamment de grands projets pour savoir la difficulté qu'il y a à manier des équipes immenses. Et en effet, on a du mal à faire avancer des projets. Je citais la BPI tout à l'heure, mais j'aurais pu citer la BNF, j'aurais pu citer aussi de grandes autres bibliothèques. Bref, à un moment donné, je pense que la liberté sera de sortir du rang programmatique et architectural et urbain et fonctionnel et de gestion et de valorisation des compétences et des métiers des professionnels. Sortir du rang. À un moment donné, il faudra abandonner sa capeline de programmiste, d'architecte, de bibliothécaire et se fusionner dans un noyau de réflexion où les bonnes volontés seront attendues en quelque sorte et où chacun sera libre d'exprimer un propos libre. Donc les petits équipements. Le septième point, j'en ai plus que deux, tiens. Le septième point, c'est travailler sur un couple qui pour moi est un peu mystérieux encore, mais qui l'est de moins en moins, et que je vous livre là, qui est le couple que j'ai trouvé dans un article américain, et qui met en relation le couple iconique avec avec domestique. Iconique, domestique. Alors c'est un peu mystérieux, c'est un peu du verbiage de critique architecturale. Mais qu'est-ce qu'il dit en quelque sorte? Et j'aimerais vous citer et vous projeter l'article. C'est un article qui est paru dans le Courrier de l'architecture en France et dans The New Republic aux États-Unis. Et qui a été écrit par une femme, Sarah William Goldhagen, qui a écrit sur justement les petites bibliothèques. Et elle nous dit des tas de choses intéressantes. Et je vous l'ai dit un peu en vrac et j'ai souligné en jaune les aspects qui me semblaient intéressants. Elle nous dit l'avenir de la bibliothèque contemporaine pose question. Certes, que devrait être une bibliothèque contemporaine? Il faut s'éloigner de la bruyante bibliothèque de Seattle, vous savez, construite, réalisée par Rem Koolhaas, Oma, qui fait plusieurs dizaines de milliers de mètres carrés. Pourquoi ? Parce qu'il a appliqué une recette simple, qui était de considérer cette bibliothèque comme un grand salon. Mais elle dit en gros, l'argument est un peu court, justement, il nous faut aller au-delà de cette application d'une recette un peu simpliste. Elle nous dit, de par le manque d'une poignée d'architectes innovants, sont en train de forger un nouveau type de bâtiment au nom trompeusement familier. Ça m'intéresse parce que, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, et elle ose le dire avec une sorte de décontraction totale, elle me dit, on les appelle encore bibliothèques, mais entre nous, c'est plus des bibliothèques, c'est autre chose. Ces bibliothèques offrent quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans la ville contemporaine, des espaces, etc., etc. Bon, ça, vous connaissez le bâtiment civique qui affecte la vie des gens et de leur communauté. On aurait pu s'arrêter également avant l'ère digitale, bien entendu. Excepté leur nom qui reste trompeusement familier, toujours elle revient là-dessus, parce que ça lui tient à cœur. Un mot intéressant, elle dit, les bibliothèques avant, c'était des ressources, de culture, en quelque sorte, on pouvait, ou pas, oui ou non, les prendre avec soi. Elle nous dit là, ça change, les bibliothèques ne les livrent plus, des ressources, occasionnelles ou accessoires. Non, ce sont des ressources tout à fait essentielles à la vie dans nos collectivités. Elle dit encore, la construction nouvelle de bibliothèques avec de pair, avec l'innovation architecturale, bien sûr, patatras. Comment conjuguer de tels impératifs compétitifs, si ce n'est contradictoire, public et privé, iconique et domestique, différent et local? Et ça m'intéresse bien. Ça m'intéresse parce que elle nous dit en quelque sorte, et elle cite plusieurs architectures, alors qu'on peut aimer ou ne pas aimer, bon, les toits en aile d'avion, c'est pas la tasse de thé de tout le monde, et je comprends. À savoir, en effet, elle dit simplement, la bibliothèque ne peut pas simplement être une cage, un bâtiment sans relief dans une ville contemporaine. On ne peut pas s'en satisfaire. Et réciproquement, un bâtiment qui ne serait qu'intériorité, à savoir qui disposerait d'espaces domestiques à l'intérieur, serait aussi raté. Elle nous dit, la bibliothèque réussit en quelque sorte, c'est cette alliance entre l'aspect iconique. Il faut lire monumental, mais il ne faut pas que lire monumental, il faut lire aussi, qui permet en effet aux visiteurs de se dire, je suis là dans cette ville singulière qui a construit cet équipement. C'est-à-dire cette architecture qui a réussi à construire un récit territorial et à désigner en quelque sorte la ville par simplement l'affichage de cette architecture qui se trouve là. Elle nous dit ça, iconique et domestique, une bibliothèque qui saura en son sein, dans ses espaces intérieurs, faire bénéficier le lecteur, l'usager, d'une multiplicité de lieux aux consonances, aux résonances, à l'acoustique, la qualité visuelle différente. C'est-à-dire qu'elle ne nous dit pas, elle nous cite Kahn d'ailleurs, j'ai l'impression dans son... elle nous dit pas... le lecteur, finalement, il est unique et il prend son livre pour aller à la fenêtre. Non, elle nous dit pas ça. Elle nous dit le lecteur fait ça, mais c'est aussi des tas d'autres postures imaginables par l'ensemble des usagers qui sont dans nos bibliothèques. Et ces usagers, ce ne sont pas que des lecteurs, ce sont aussi des tas d'autres utilisateurs de cette bibliothèque et ils ont besoin, en effet, d'aménagements intérieurs différents. Et si, en effet, je reconnais aux architectes le don de faire des bibliothèques qui rentre bien dans des revues d'architectes, je ne leur retenais pas pour l'instant la capacité à créer des espaces intérieurs qui résolvent l'équation compliquée demandée par les bibliothécaires. Je vous montre simplement pour conclure alors une petite bibliothèque qui selon elle résume bien cela. C'est elle qu'il pense. Je ne suis pas certain que tous que nous sommes là nous le pensions. Mais je vais quand même vous montrer l'exemple qu'elle nous donne pour une sorte d'idéalité ou de résultat de ce rapprochement entre le caractère iconique et le caractère domestique. C'est une petite bibliothèque qui a été réalisée en Norvège, dans la ville de Vennesla, qui est très modeste et qui pourtant est très, c'est vrai, intéressante. De là à lui attribuer de telles qualités, je ne sais pas. Néanmoins, elle est très surprenante et elle pose un certain nombre de questions entre ce rapport iconique et domestique. C'est vrai. Je vous la montre simplement pour conclure. Alors, les revues d'architecture ont toujours tendance à prendre les lieux sans usagers, sans personne, ce qui est détestable parce que... Et je vois bien, en effet, je vois bien ce qui l'a séduit. Vous voyez, cette espèce, d'abord, de façon de s'installer dans la ville, et puis, cette espèce de structure qui est mise au service de la structure du bâti, mais aussi au service d'un aménagement intérieur, qui vaut ce qu'il vaut d'ailleurs, mais qui dit bien la recherche de niches, de volumétrie habitable par un être humain. Voilà, merci.